Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour commencer la semaine dans le JDA, nous parlons aujourd'hui du rétropédalage des autorités congolaises. Après avoir annoncé la mise en quarantaine de la capitale Kinshasa, les autorités ont finalement reporté cette mesure. Elles invoquent le risque de bousculade et l'insécurité. Auparavant, il faut le dire, de nombreuses voix de la société civile s'étaient élevées pour dénoncer une mesure inadaptée. Alors, que pensez-vous de ce rétropédalage? Peut-on parler d'une communication confuse des autorités? Puis, le confinement est-il vraiment possible à Kinshasa? Pour participer, composez le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Pour en parler, nous serons en ligne depuis Kinshasa justement avec Floribert Anzuluni, coordinateur du mouvement citoyen Filimbi. Avant de parler de ce sujet, direction sans plus tarder le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Coucou Africa Radio, c'est Estelle Bonheur. Donc, je tenais vraiment, dans un premier temps, à faire un coucou à tout le monde. Et secondo, bien sûr, par rapport à la perte de notre papy, comme je l'appelais respectueusement. Merci, merci vraiment à ce grand homme, à tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Pendant les 2 ans que j'ai pu effectuer au sein de la radio, il a été vraiment source de conseils, de sagesse. Et il était tellement humble à sa manière d'être que je peux simplement sourire parce qu'il a passé 86 années, les merveilleuses années. Et encore, voilà, les mots me manquent tellement, cette perte est tellement soudaine. En tout cas, par rapport à tous les auditeurs de la radio, restez chez vous. Protégez-vous et protégez vos proches. Encore, grosse pensée à Papy Manu du Bongo et bisous à tout le monde. Bisous Steph.
Allô, bonjour Madame Hartmann, bonjour les auditeurs, c'est Marcus. Dans 10 ans, j'aurais voulu laisser un message concernant l'œuvre de Manu du Bongo. Je ne suis pas le seul à avoir cette pensée. Bien au contraire, certaines personnes d'entre nous y ont pensé. Et si aujourd'hui je demande la parole pour pouvoir transmettre ce message, c'est que dans tous les pays, quels qu'ils soient, surtout le continent africain, nous devrions baptiser les avenues, avenue Manu Dibango et certaines rues, rue Sul Makossa, et avec le saxo de Manu Dibango. Cela permettra à toutes les générations, les futures générations à venir, à connaître ce qu'a été Manu Dibango dans son œuvre musicale. C'est quelque chose d'indélébile, je pense. La plupart des dirigeants conscients, la plupart de nous autres qui marchons dans une rue, c'est-à-dire même quand nous prenons une avenue, nous allons penser à avenue Manu Dibango, et peut-être nous prenons une rue, nous pensons que nous marchons dans la rue Sul Makossa. C'est la pensée de Marcus. Je pense que ça permettra à certains décideurs de faire le bon choix de nom des rues et de nom des avenues. Merci, portez-vous bien. Marcus.
Bonjour, chers auditeurs. Je suis Monsieur Meïké. Et alors, je souhaiterais intervenir par le biais de votre antenne pour parler un peu de ce qui se passe en Afrique. Et je suis très en colère contre les gens qui vivent en Europe, qui ont ramené ce virus-là en Côte d'Ivoire ou dans le reste de l'Afrique, parce que l'État français a promis de payer le salaire de tout le monde et pensant que les Africains allaient rester à la maison ou la population française allait rester à la maison. Mais d'autres personnes ont vu ça et comme des vacances gratuites. Ils ont pris le billet. Alors, sans être dépistés, ils ont pris leur billet pour aller filer ce virus-là aux Africains. Je trouve ça très méchant. très méchant et très irresponsable de leur part. On n'a pas été dépisté. Pourquoi vous avez pris vos vols, vos billets d'avion pour aller propager ce virus-là en Afrique? On n'a pas les moyens de combattre un tel virus. Regardez les pays les plus développés, regardez le nombre de victimes qu'il y a. Mais combien de fois nos États à nous? Vous allez faire tous les pays de l'Afrique, trouver les villes où on peut avoir 10 hôpitaux, voire 20 hôpitaux dignes de ce nom.
Bonjour Stéphanie, bonjour tous les auditeurs. Je viens ce matin par rapport à la situation dans le monde, surtout en Côte d'Ivoire. Stéphanie, tout le week-end, j'ai écouté ceux qui mettent sur les réseaux sociaux, les YouTube, Facebook, Stéphanie, les déstabilisateurs, Stéphanie. Un volet n'est jamais mal à 100%. Ils veulent révolter les policiers et les militaires en Côte d'Ivoire de demander un prime, Stéphanie. Ils ont tout dit, ils ont oublié ceux qui sont au front. Les premières personnes qui sont au front de ces maladies, c'est qui? C'est les médecins, les soignantes, qui sont les premiers, d'abord qui sont à la une, que c'est eux on doit penser. Ils n'ont pas pensé à ceux-là. C'est ce que ceux-là ne peuvent pas se révolter pour faire un coup d'État. Pour eux, c'est les militaires, les policiers qui peuvent faire un coup d'État. On leur dit de demander une prime de 6 000 francs.
Chers amis de la radio africaine, bonjour. Je pense que les scientifiques du monde entier aujourd'hui, ils ne voient plus le coronavirus. Donc le regard est tourné vers l'après-coronavirus. Et moi, j'interpelle l'Union africaine, les États africains. Une guerre sans merci va se livrer dans le continent africain. L'Europe, après avoir devenu une société de commerce virtuel, ils ont laissé toute la production entre les mains des Asiatiques et voilà, aujourd'hui, ils ont reçu l'ascenseur. La Chine qui leur dit qu'il ne peut rien leur fournir tant qu'il est dans la même situation que eux. Et l'Europe a compris qu'ils ont commis une grosse bêtise d'abandonner la production, de se servir que du commerce. Et voilà aujourd'hui pour récupérer le manque à gagner tout ce que l'Europe a perdu. Après le corona, ça va être une guerre sans merci. L'Union africaine doit convoquer une réunion d'urgence. Les États africains doivent restructurer leurs armées. S'ils ne prennent pas, c'est ce que je dis, s'ils ne prennent pas ça vraiment avec l'extrême gravité, je pense que les Africains vont regretter, ils seront pillés encore comme à l'époque de la traite négrière, de la colonisation et de la guerre froide. À bon entendeur, salut. Mac de la région parisienne.
Bonjour, la sœur Atman. Bonjour, les animateurs de l'Africa Radio. Et moi, je voudrais laisser le message concernant cette crise pandémique que nous appelons le coronavirus, COVID-19, couramment. Bon, les lois se succèdent aux lois, des mesures se succèdent aux mesures. Dans des pays d'Afrique, les chefs d'État qui interviennent, c'est très bien, on ne peut pas contredire. Mais seulement, il ne faut pas confondre la réalité ici en France, dans des pays développés en Europe, par rapport à la réalité africaine. Parce que quand on va confiner les gens en Afrique, vous savez qu'est-ce que c'est un confinement? Donc, ça peut se passer peut-être dans des communes, dans des villes, dans des grandes communes, ainsi de suite, tout cela. Mais il faut faire une concession avec des paysans, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les pays profonds. Les pays profonds, c'est-à-dire ceux qui sont dans les fins fonds du village, ainsi de suite, tout cela, on ne peut pas les confiner. Puisque ce sont des gens qui vivent de l'agriculture, des gens qui vivent de la pêche, de la cueillette et de la chasse. Le matin, il sort, il doit aller travailler pour nourrir sa famille, il doit aller à la pêche, il doit faire toutes choses. Donc, il faut savoir faire des concessions et non d'envoyer des agents et d'aller brutaliser les gens jusqu'au pays profond, soi-disant, c'est la loi de l'État. Il faut être vigilant. Parce que parmi, il y a certains pays qui sont, qu'on connaît très très bien, qui ne vivent que des agents de l'État, qui ne vivent que de la raquette.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Le numéro à composer pour participer, c'est le 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, le rétropédalage des autorités congolaises, impossible à appliquer la mesure de confinement qui avait été décidée, par notamment par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a été rapidement annulée sur ordre de la présidence, bien qu'intermédiaire. Hier, ce confinement suscitait les inquiétudes de la société civile. Alors, que pensez-vous de ce report ? Pour en parler, nous accueillons Floribert Anzuluni. Bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Floribert Anzuluni. Vous êtes coordinateur du mouvement citoyen Filimbi. Vous êtes avec nous justement depuis la ville de Kinshasa. Lors de son allocution télévisée mercredi soir, le président Félix Tshisekedi avait donc annoncé l'isolement de la capitale des 25 autres provinces du pays à compter de samedi, et ce pour une durée de 4 jours. Finalement, la veille de son entrée en vigueur, la mesure a été reportée sine die officiellement pour éviter des bousculades et mettre en place un dépistage sélectif. Floribert Anzuluni, est-ce que ce report de la mesure de confinement vous paraît-il une bonne chose ?
D'abord, peut-être une précision extrêmement importante. Le président de la République a énuméré un certain nombre de mesures, parmi lesquelles ne figurait pas le confinement. Le confinement a été annoncé par le gouverneur de la ville quelques jours après, deux jours avant le début du confinement, et c'est ce même gouverneur qui, la veille, a décidé simplement, après avoir finalement consulté le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et autres autorités, ont décidé de reporter ce confinement. Un confinement qui devait être intermittent, c'est-à-dire 4 jours de confinement et 2 jours finalement d'ouverture. À notre niveau, bien évidemment, en tant que citoyens, nous avons été complètement déboussolés. D'abord par l'annonce assez précipitée de ce confinement. Il a été annoncé jeudi pour commencer samedi. Ensuite, par la manière dont ce confinement devait être procédé, nous lisons tous que un confinement devrait durer au minimum 14 jours pour être efficace. Et puis ensuite, par le manque de mesures d'accompagnement nécessaires quand même dans des pays comme les nôtres, partout d'ailleurs, encore plus dans nos pays, accompagnement par rapport à la situation sociale actuelle, par rapport à la situation économique, il n'y avait pas de mesure d'accompagnement, et donc cette annulation est un souci très 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 important pour nous, parce que en même temps, il démobilise en partie, ou en tout cas, il pourrait démobiliser une partie de la population qui n'a pas encore pris conscience suffisamment de la gravité de la situation et que nous tous sommes en train de sensibiliser.
Alors vous parlez d'annulation, on a évoqué dans un premier temps un report. Qu'est-ce qu'il faut penser ? C'est une annulation définitive selon vous ?
On nous a dit que c'est un report et que finalement il y a des discussions qui ont lieu au niveau des institutions pour une meilleure préparation. D'autres nous disent que le confinement ne sera plus sur toute la ville de Kinshasa, mais principalement sur certaines communes ou les communes les plus touchées, principalement la commune de la Gombe et autres. Nous ne savons pas. Ça fait partie justement des faiblesses qui doivent être réglées très rapidement au niveau des autorités congolaises. La communication et la gestion de la crise fait ressortir plusieurs faiblesses de coordination dans la gestion.
Je vous lis ce message d'Aruna Doudou sur WhatsApp. Il nous dit ce rétropédalage des autorités congolaises est une preuve d'irresponsabilité totale qui pourrait avoir des conséquences très graves sur tout le continent. L'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Vous-même, vous avez évoqué, je crois, sur les réseaux sociaux, la gestion confuse et peu coordonnée de cette crise sanitaire mondiale. Est-ce qu'il y a eu de l'amateurisme de la part des autorités congolaises ? Et que pensez-vous du rôle de l'Union africaine dans cette crise ?
En tout cas, il y a un manque criant de coordination qui laisse paraître des faiblesses extraordinaires au niveau de la gestion de la crise, malheureusement, en RDC. Vous savez, la veille du début du confinement, pratiquement toute la ville s'est mise en mouvement pour essayer de créer, de rassembler, d'acheter des provisions pour pouvoir tenir 4 jours. Donc, pendant cette journée-là, vous imaginez, vous connaissez un petit peu la ville de Kinshasa, vous imaginez la mobilisation qu'il y a eu dans les marchés, dans les supermarchés à travers toutes les villes, et donc le risque énorme de contamination pour qu'ensuite, le soir même, on vienne annuler cela. C'est vraiment extrêmement dangereux. et je pense que le responsable numéro un devrait être associé au gouverneur. Ensuite, pour l'Union africaine, malheureusement, nous ne sentons pas suffisamment, encore une fois, de coordination au niveau africain de cette crise de l'Union africaine. De mon point de vue, de notre point de vue, semble quand même assez globalement absente dans la gestion coordonnée de la crise. Chaque pays semble un petit peu faire ce qu'il peut, parfois et souvent, trop souvent, en copiant de manière peu efficace ce qui se fait dans d'autres pays où l'environnement est complètement différent.
C'est très clair, merci à Floribert Anzuluni, 33 1 55 07 58 00. Si vous souhaitez intervenir sur ce sujet, restez à l'écoute Floribert, on va tout de suite aller retrouver Jean. Jean, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour Jean, bienvenue dans le journal des auditeurs.
Merci la sœur Atman, merci. J'ai plein de choses à dire, mais je
Allez-y.
Pense que ce n'est pas le moment de faire la polémique. C'est-à-dire, moi j'attends que cette épidémie passe, bon, souhaitons que Dieu vraiment fasse grâce, que ça puisse passer, et puis le moment venu, il y a des choses à dire quand même. Parce que ce qu'on entend partout, de tous les chefs d'État africains, des déclarations qu'ils font là, mais allons-y un petit peu dans la réalité, dans ce sens que, bon, laver les mains, faire ceci, ainsi de suite, tout cela, alors que dans certaines villes, par exemple, bon, là on parle de Kinshasa n'est pas tout seul, la plupart des villes africaines, vous allez voir qu'il y a des villes où il n'y a même pas de l'eau à boire. Ils n'ont même pas de l'eau à boire. Même pas faire la toilette. Bon, c'est vrai. Confiné toute une ville, par exemple, Brazzaville, Kinshasa, ou bien le Gosse, tout cela, c'est très bien. Mais s'il faut laisser l'ouverture, il y aura aussi les gens qui vont aller en campagne pour aller, excusez-moi le terme, peut-être c'est trop méchant, pour aller contaminer encore les pauvres paysans qui sont au profond dans les villages, qui vivent très très bien. Les gens ne veulent pas aller dans les villages avant, parce que quand ils partent dans les villages, il y a trop de sorciers. Parce que chez nous, au Congo-Brazzaville, tous ceux qui habitent le village sont des sorciers. Mmh. Et ils sont tous dans la capitale, ils ne veulent pas aller au village. Bon, maintenant, si on laisse les gens libres d'aller dans le village, vous voyez ce qui va se passer. Bon, le confinement, là je vais arrêter le confinement, par exemple, comme tout à l'heure, là, les messages que nous avions entendus. Bon, le confinement dans le village, ça va se passer comment? Ils vont envoyer des agents pour aller brutaliser les gens, c'est-à-dire pour dire qu'écoutez...
Jean, et je poserai la question tout à l'heure à Floribert, puisque c'était l'autre côté du feu. Vous parlez surtout de la situation à la République du Congo, qui a proclamé un confinement à domicile sur l'ensemble de la population du 31 mars au 30 avril.
La plupart des chefs d'État, parce que moi je les suis ici, tous. Que ce soit le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Gabon...
Il n'y a pas de confinement pour l'instant au Congo-Kinshasa, Jean. Parce que vous parlez de la difficulté de confiner les gens dans les villages, mais pour l'instant, il n'y a pas de... c'est pas le cas au Congo-Kinshasa ou ailleurs, d'ailleurs, même à Abidjan.
L'interprétation de la loi pour éviter, parce que je sais très bien que dans certains États... On va envoyer, par exemple, des militaires d'aller sauver les gens, de faire appliquer la loi, et ainsi de suite, qui vivent que de la raquette. Ces mêmes agents, ce sont des agents ripoux. Parmi eux, on peut trouver des agents ripoux pour aller brutaliser les gens. Bon. Attendez, l'État a décidé ceci, ne sortez pas, restez chez vous, ainsi de suite, tout cela. Celui qui va circuler...
Vous craignez des atteintes aux droits de l'homme, si j'ai bien compris, Jean, dans cette affaire. C'est bien
oui,
ça.
Oui, mais bon. Non, il faut se baser sur la réalité. Qui ne copie pas ce qui se passe ici en Europe, ce sont des pays développés où il y a tout et tout. Dans chaque coin, on trouve une pharmacie, on a de l'eau à boire, on a de l'électricité, dans tous les coins, on a tout. Mais qui ne copie pas la réalité européenne des pays développés par rapport à l'Afrique.
Merci, Jean.
Parler c'est bien, mais la réalité n'est pas la même, c'est ce qu'on
a bien compris, et c'est ce que disait notre invité tout à l'heure. Merci beaucoup Jean, 33 1 55 07 58 00. Jean évoquait, Floribert Anzuluni, de trouver des solutions adaptées aux pays africains. Quel est le rôle de la société civile dans cette crise sanitaire mondiale, vous-même, avec Filimbi, votre mouvement, vous avez entamé une sensibilisation. En quoi consiste cette sensibilisation?
Je pense que la société civile, ou de manière plus large, tous les citoyens ont un rôle, tous les citoyens éclairés, informés, ont un rôle extrêmement important dans cette lutte qui nécessite justement au niveau du continent et la cohésion au niveau mondial. Donc notre rôle en tant que citoyens informés est de nous assurer que d'autres citoyens soient également bien informés et informés, nous assurer que les mesures minimales qui doivent être prises puisse être appliquée au niveau des citoyens, mais également au niveau des autorités. Et donc c'est comme ça que nous avons lancé, nous, une campagne à deux niveaux, une campagne virtuelle de sensibilisation avec des vidéos et ainsi de suite, mais également une campagne de proximité, parce qu'il y a une réalité qu'il faut bien intégrer dans notre environnement, c'est que vous avez peut-être 5 à 10% de nos populations qui ont accès aux réseaux sociaux et à Internet, peut-être 10% grand maximum qui ont accès à la télévision pour des problèmes de courant et autres. Donc il y a toute une masse de population finalement qui n'a pas forcément accès aux informations et qui ne reçoit que des rumeurs. Et donc nous avons commencé une sensibilisation de proximité. Nous sommes allés dans l'un des plus grands marchés de Kinshasa sensibiliser. Nous sommes allés dans l'un des plus grands arrêts de bus de Kinshasa sensibiliser. Nous allons continuer dans les prisons. Nous prendrons contact avec la police pour sensibiliser les policiers. Il est important que nous tous, chacun d'entre nous, joue ce rôle de sensibilisateur, d'éclaireur, parce qu'il est important que les mesures soient prises. Mais permettez-moi d'insister sur le fait que ces mesures-là doivent être accompagnées de mécanismes adaptés et appropriés. Je vous donne un exemple très simple. Nous sommes allés au grand marché de Kinshasa, mais vous demandez aux gens, nous demandons tous aux gens de laver les mains, mais il n'y a pas de point d'eau dans tout le marché. La commune qui se trouve à côté de l'arrêt de bus le plus fréquenté à Kinshasa, la commune n'a pas d'eau. Donc nous-mêmes qui faisions des expérimentations avec des petites bassines d'eau, avons dû acheter de l'eau pour faire pour montrer à la population comment procéder. Donc il y a absolument des mécanismes qui doivent être mis en place. Au contraire, même ce travail de sensibilisation ne sera pas utile.
Le Niger a annoncé la gratuité de l'eau et de l'électricité. Est-ce qu'on peut envisager une telle mesure en République démocratique du Congo ?
Ben ici, on a officiellement également annoncé que, il y a deux jours, il y a des mesures qui ont été annoncées disant que l'eau et l'électricité, que les citoyens ne pouvaient plus, n'allaient plus payer l'électricité pendant les deux, le mois de mars, je pense, et le mois d'avril. Mmh. Encore une fois, il faut revenir sur la réalité. Encore faut-il qu'il y ait cette fourniture d'eau. Je pense qu'il y a une analyse plus globale à faire de nos dirigeants. Il faut analyser les lieux de disponibilité d'eau. Où là où l'eau peut couler, c'est très bien, mais là où, dans la grande majorité de la ville de Kinshasa, l'eau ne coule pas du tout en permanence. Donc il faut des solutions alternatives et non pas simplement répéter ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, il faut mettre à disposition de la population de l'eau et il faut trouver des mécanismes pour le faire. Donc oui, ce sont des mesures positives qu'il faut saluer, mais ce sont des mesures, malheureusement, à ce stade-ci, qui sont assez insuffisantes parce qu'elles ne cadrent pas totalement avec nos réalités.
C'est très clair. Merci Floribert Nzouluni. J'espère que vous faites des campagnes de proximité en respectant la distanciation sociale. Ou c'est pas évident.
Ah oui, c'est le plus difficile. Nous avons d'abord pris quand même les précautions de nous équiper au maximum, mais vraiment au maximum. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est vraiment une mobilisation congolaise, citoyenne. Ce sont des compatriotes qui se sont mobilisés pour nous aider à faire cela. Nous avons acheté des combinaisons, des masques et adaptés, appropriés et tout ça. Mais très clairement, la distanciation est également un problème, vous le dites. Dans le marché, dans le plus grand marché où nous avons été, mais au-delà de demander aux gens de respecter la distanciation, il est important, encore une fois, que l'État réorganise ses marchés de sorte à ce que la distanciation soit possible. Lorsque vous avez des mamans qui sont alignées, collées, dont les tables sont collées comme elles le sont aujourd'hui, mais il est difficile de demander à ces personnes-là de pouvoir respecter la distanciation. Donc, encore une fois, il faut que des mécanismes soient mis en place. Je vous dis, nous avons vécu une situation complètement surréaliste. Des foules et des masses énormes, alors que la distanciation, aujourd'hui, fait partie des mesures. Donc, il faut vraiment des mesures d'accompagnement.
Merci, Floribert. On va se diriger du côté de Conakry, retrouver Tierno. Tierno, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie Hartmann et bonjour aux auditeurs et aux auditrices de JDA.
Bonjour Tierno, est-ce que vous imaginez qu'une mesure de confinement serait possible à Conakry selon vous ?
Bon, vous savez, la situation est très grave. Donc tout le monde pense que les mesures de confinement n'est pas quelque chose qui est possible vu la pauvreté et beaucoup d'autres choses. Mais moi, je pense que ça reste la meilleure solution parce qu'il faut sauver des vies, il faut éviter la propagation du virus. Donc, l'isolement pour 10 semaines, 10 jours, pour faire face à cette pandémie, je pense que ça reste la meilleure solution. Je sais que les citoyens vont penser que c'est autre chose, ce sont les autorités sanitaires ou le gouvernement qui les oblige de le respecter. Mais en tant que humaine, en tant que citoyen, vous aussi, vous devez appuyer les autorités pour mettre fin. Parce que l'État est là. Nous savons la faiblesse de nos institutions, de nos États. Il n'y a pas de confiance entre le peuple et le gouvernement. Mais cette fois-ci, l'épidémie menace l'existence de l'humanité. Tout le monde doit s'engager. Ce n'est pas parce que lui qui a pris de la décision n'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité dans la population, dans l'ensemble. Mais il faut que les populations même avancent des mesures très sérieuses avant que l'État vous confine. Vous-même, vous pouvez éviter les contacts, vous pouvez faire des autoconfinements. Ce qui s'est passé à Kinshasa, vous voyez, les citoyens de Kinshasa ont compliqué davantage les choses à l'autorité. Vous voyez, les citoyens
pouvaient
rester quelques jours, à mon avis, pour éviter la propagation de la pandémie. Mais ils ont compliqué la situation davantage aux autorités sanitaires et à
l'État. Pour vous, le fait que les Quinois se soient rués dans les magasins
a
compliqué la chose, d'accord.
Lagos, Kinshasa, le Caire, et beaucoup de grandes villes et les grandes nations africaines, là où il y a des millions de populations, je pense que c'est aux populations d'appuyer l'État. Vu la faiblesse de l'État, c'est aux citoyens de sensibiliser, une fois d'aller dans les quartiers, dans les bas quartiers, de faire comprendre que la maladie existe. Vous avez vu ce qui s'est passé en Italie, en France, en Espagne, aux États-Unis. C'est des États puissants. Nous, Africains, si nous n'arrivons pas à prendre les choses très au sérieux, comme l'a dit la secrétaire générale des Nations Unies, M. Guterres, il aura nécessairement des millions et des millions de morts en Afrique. Donc, il faut qu'on évite, il ne faut pas qu'on attende tout de l'État, il faut sensibiliser, il faut faire des autoconfinements. Une fois qu'on est testé positif, il faut t'isoler, il ne faut pas se déplacer d'une ville à une autre, il faut sauver des vies. Vous avez dans certaines villes des citoyens qui quittent la ville pour les provinces. Donc, là où il n'y a même pas des hôpitaux, c'est ce qui s'est passé dans les grandes puissances, là où ça a créé vraiment des propagations inimaginables. Mais si on fait ça en Afrique, on quitte les grandes villes, là où il y a des hôpitaux, des CHU et autres, il y a des pays au moins, on se déplace pour l'intérieur du pays, on peut contaminer tout un village, et puis maintenant, il n'y a pas de mesures sanitaires, ça va faire des propagations. C'est l'existence de l'humanité qui est menacée. Donc, l'ensemble, nous devons coordonner les activités entre l'État et les citoyens.
Et les citoyens.
Face à cette pandémie.
Merci beaucoup, Thierno. Hein, j'ai bien compris que vous en appelez finalement la responsabilité individuelle. C'est ce qu'évoquait peut-être tout à l'heure notre invité, Floribert Anzuluni. Restez à l'écoute, Floribert. On va écouter un autre auditeur. C'est Frédéric. Frédéric, bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est madame Atman.
Oui, bonjour.
Moi,
Frédéric.
Je voudrais parler exactement de la situation n'est pas adaptée à nous qui sommes à l'Afrique. Parce que la population africaine, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas cette réalité des faits. C'est-à-dire, on dit le confinement. Confinement, comment la population peut survivre alors que la population doit sortir tous les jours pour aller chercher le pain quotidien? Moi, je remercie par exemple le président Talon qui a pris une grande décision.
Au Bénin?
Au Bénin, qui a dit que nous, on ne peut pas confiner. J'ai vu qu'au moins, c'est une réalité par rapport au milieu où nous vivons. Donc, de quoi s'agit-il? Comment on peut confiner les gens? Comment on peut confiner les gens qui déjà la population africaine, je crois que la majorité, vivent de l'informel? Et comment? Qu'est-ce que l'État va les apporter? C'est ça la situation. Donc, moi, je vois que c'est une réalité. On peut pas. Il faut s'adapter, il faut sensibiliser les gens.
Trouver des solutions adaptées à l'environnement, hein, c'est ce que
disait notre invité. Je me suis posé la question. Par exemple, ils ont dit qu'il faut un mètre de, comment on appelle ça, d'écart par rapport à chaque personne. Mais dans la majorité des pays africains, il y a des populations qui ont leur moyen de transport, c'est les taxi-moto. Quelqu'un qui prend taxi moto, comment il peut être isolé du conducteur? Mais c'est impossible.
D'ailleurs, là où des mesures ont été prises hein, concernant le transport, hein, je crois que vous évoquez le Bénin, Frédéric. Au Bénin, finalement, voilà, les émigrants gens hein, n'ont le droit de prendre plus qu'un passager. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Il nous reste quelques minutes, Floribert Anzuluni. Je reviens vers vous. Frédéric a évoqué finalement l'impossibilité pour pour certains de mettre en place ce confinement. À Kinshasa, hein, les bars aussi, hein, discothèques ont été fermés. Est-ce que des mesures d'accompagnement économique, cette fois-ci, ont été prévues ?
Écoutez, il y a quelques décisions qui ont été prises. Si vous me permettez, il y a un élément qu'il faut préciser par rapport aux propos de l'auditeur précédent, pour ne pas que les autres auditeurs restent dans une certaine confusion. À Kinshasa, je vous assure que la population, et je pense que c'est d'ailleurs, est très disposée à respecter le confinement malgré la situation.
C'est pour répondre
samedi
à Tierno.
Samedi et dimanche, malgré l'annonce de ce confinement, la ville était pratiquement morte, comme on dit ici. Deuxièmement, vendredi, la veille, les gens se sont rués dans les magasins et dans les supermarchés et dans les marchés pour constituer leurs provisions, étant donné qu'ils ont été informés la nuit de jeudi à vendredi. Donc c'est important de faire comprendre que la population et nos populations sont très engagées. En termes de mesures et de confinement, il y a certaines mesures très faibles encore à ce stade-ci, pas suffisamment coordonnées, qui ont été prises d'un point de vue économique. Mais pour revenir sur le confinement, moi je pense que c'est important. Aujourd'hui, on donne l'impression que le mot confinement à lui seul règle le problème. Pas du tout. J'ai suivi le directeur général de l'OMS qui soulevait quand même un certain nombre d'autres mesures extrêmement importantes qui devraient en fait accompagner la résolution de ce problème. Si vous n'avez pas du personnel formé et blindé déployé, si vous n'avez pas un système pour trouver chaque cas suspect, si vous n'avez pas augmenté votre capacité de test, si vous n'avez pas identifié et adapter des installations clés qui vont être utilisées pour traiter et isoler des patients, si vous n'avez pas élaboré un plan clair de mise en quarantaine, si vous n'avez pas fait tout ça, en réalité, l'isolement à lui tout seul ne résoudra pas, ou le confinement ne résoudra pas seul le problème. Encore une fois, il y a un tas de mécanismes qui doivent être mis en place. Regardez ici en RDC, le prix des denrées alimentaires a complètement explosé au cours des derniers jours et surtout depuis qu'on a annoncé le confinement. Et les mesures économiques ne sont pas là. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'État, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui à nos autorités, doit sévir en termes de contrôle, en tout cas du moins d'essayer de comprendre ce qui est à la base de l'augmentation très 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 agressive des prix, agressive des prix, et ensuite mettre en place un mécanisme pour empêcher cela. Donc encore une fois, les mécanismes, le confinement en lui seul, ne résout pas le problème.
Ne suffit pas, on a bien compris. Alors justement, une dernière question, Floribert Anzoulini. La République du Congo, hein, votre voisin, a proclamé un confinement à domicile de l'ensemble de la population du 31 mars au 30 avril 2020. Est-ce que vous pensez que ce confinement peut avoir des conséquences sur Kinshasa ? Et quel regard, justement, portez-vous sur cette mesure qui a été prise par votre voisin ?
Oui, les conséquences, dans tous les cas de figure, le Congo-Brazza est un pays voisin avec lequel le Congo, la RDC, a des échanges commerciaux à travers le fleuve très important, à ne pas négliger. Le port au Congo ramène également beaucoup de marchandises à travers le fleuve vers Kinshasa, le port en eau profonde. Donc oui, économiquement, l'impact se fait déjà ressentir, très clairement. Et puis deuxièmement, j'espère que les frères congolais de Brazzaville, les autorités de Congo Brazzaville, ont tenu compte des différentes réalités. Il ne faudrait pas que ces confinements, effectivement, je comprends le souci de l'auditeur qui est intervenu, il ne faudrait pas que ces confinements nous emmènent d'autres problèmes, parce que entre la faim et la crainte d'attraper une maladie, il est clair que un être humain ne sacrifiera pas son besoin de se nourrir par son souci d'attraper ou pas une maladie. Et là, ça peut nous emmener vers des crises encore plus graves que les crises ou la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Je pense que c'est cela que les autorités également congolaises ici ont voulu éviter, que finalement cette crise sanitaire se transforme en crise sociale.
Ouais. Exact. C'est très clair. Merci beaucoup, Floribert Anzoulini, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes coordinateur du mouvement citoyen Filimbi. Bonne journée à Kinshasa.
Merci Stéphanie, à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt. Vous l'avez entendu, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat, la discussion sur nos réseaux sociaux, @jauditeur sur Twitter, facebook.com/journaldesauditeurs sur Facebook, et bien sûr, hein, comme toujours, le répondeur d'Africa Radio au 33 1 55 07 58 05. Hein. Vous pouvez nous laisser des messages 24 heures sur 24, 33 1 55 07 58 05. 05. Demain, mardi, c'est promis, nous parlerons des élections législatives au Mali. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, comme toujours, en laissant donc un message sur le répondeur ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, à l'écoute de la radio africaine.